La maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, c'est fini. Un liquidateur a été nommé pour mener dans les 6 prochains mois la fermeture définitive de la structure. Un nouveau médecin mis en place par la province sud au Mont d'Or Sud. Il officie depuis le 1er décembre sur les espaces de santé de la Corniche et du Vallon à Voilon d'Or et à Plume. Incendie toujours en cours à l'île des Pins. 600 hectares sont déjà partis en fumée. Des renforts ont été envoyés sur place ce matin avec un puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Inquiétude des salariés de la NMC qui manifestaient devant le Haut Commissariat ce matin. Ils s'inquiètent d'une éventuelle cessation de paiement de la société. Très violente agression la semaine dernière au collège de Coumac. Une enseignante a été frappée au visage par un élève de 5e. Un débrayage de 55 minutes a eu lieu ce matin. Et puis le sport avec du squash et les quarts de finale de l'Open International BNP. Les Calédoniens Nicolas Masnet et Laurent Guépy s'affronteront pour une place en demi-finale. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. La mission des trois facilitateurs poursuit ses échanges dans la plus grande discrétion. Depuis lundi, Thierry Lateste, Rémi Bastille et Benoît Lombrière rencontrent l'ensemble des groupes politiques pour tenter de consolider une nouvelle version de l'accord de Bougival, selon l'expression de la ministre des Outre-mer, Elisabeth Noir.
Il faut qu'une nouvelle version de Bougival soit consolidée, affirme Naïma Moutchou dans une interview au journal Le Monde. Elle déclare que quand elle a repris le dossier, Bougival était sur la table, mais qu'il était à l'arrêt. Pour elle, certaines questions comme l'exercice du droit à l'autodétermination ou les avancées dans la reconnaissance du peuple kanak et dans le processus de décolonisation n'étaient pas tranchées. C'est pour cela qu'avec le Premier ministre, ils ont voulu redonner du mouvement. Et elle évoque la mission des facilitateurs dont elle attend des résultats. Il faut, dit-elle, qu'une nouvelle version de Bougival soit consolidée. L'objectif est un accord consensuel. La ministre ajoute que les prochaines semaines seront déterminantes. Elle reconnaît aussi que les loyalistes et le rassemblement ont fait beaucoup de concessions et que pourtant ils reviennent discuter et prennent leurs responsabilités. Tout le monde sait précisément quels sujets doivent être travaillés, ajoute Naïma Moutchou. Et elle énumère. Peut-on préciser les signes identitaires de l'État de Nouvelle-Calédonie sur les compétences régaliennes qu'implique un transfert total au territoire? Si aucune compétence n'est transférée, faut-il prévoir un rendez-vous? Faut-il faire sauter l'un des verrous prévus pour les transferts? Et sur l'autodétermination, comment l'inscrire si c'est possible? La ministre ajoute que c'est fragile et que c'est difficile.
Elisabeth, une question me brûle les lèvres. Est-ce vraiment fragile et difficile?
Eh bien, c'est le cas, effectivement. D'après nos informations, les facilitateurs cherchent une voie étroite. Le retour du nouveau FLNKS autour de la table semble aujourd'hui impossible dans la mesure où il rejette complètement Bougival. Mais il s'agit aussi de trouver le moyen d'apporter certaines modifications au texte signé le 12 juillet, notamment pour que l'UNI se sente entendue, elle qui a souhaité des améliorations, notamment dans le domaine des modalités de transfert de compétences. Il s'agit aussi de convaincre Calédonie Ensemble, et ce n'est pas le plus facile, et l'éveil océanien. L'objectif est d'arriver à une rédaction suffisamment consensuelle pour que ces groupes, qui ont émis des réserves, acceptent de donner un avis favorable au projet de loi sur la consultation anticipée. Tout cela sans pour autant que les loyalistes et le rassemblement estiment que l'équilibre de Bougival a été rompu. C'est lundi que le Congrès doit se prononcer. Autant dire que le temps est compté.
Le FLNKS a rencontré hier les facilitateurs et cet après-midi, il présentait son congrès extraordinaire qui sera réuni samedi à Ponérioin. Et il s'inquiète pour la sécurité de son président, Christian Théin, qui sera de retour demain en Nouvelle-Calédonie, Elisabeth.
C'est manifestement l'arrivée et la sécurité de Christian Théin qui justifiait cette prise de parole du bureau politique du FLNKS. Il doit arriver demain, vous le disiez, et c'est lui qui prononcera le discours d'ouverture de ce congrès extraordinaire. Mais son retour en Nouvelle-Calédonie près d'un an et demi après son départ en juin 2024 pour être incarcéré en métropole à Mulhouse n'est pas du goût de tout le monde et suscite un certain nombre de réactions en Nouvelle-Calédonie, notamment sur les réseaux sociaux. Et le FLNKS s'insurge. Il dénonce les propos hostiles à l'encontre de son président et il se plaint que certains aient forgé de lui l'image de l'ennemi public numéro un. Alors il interpelle l'État. Un message transmis par Henri Juny de la CNPT, la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique, qui est l'un des groupes de pression du nouveau FLNKS.
Le FLNKS constate que l'État français tolère les propos publics des radicaux anti-indépendantistes en regardant ailleurs, alors que les publications sur les réseaux sociaux sont de notoriété publique. Le bureau politique du FLNKS interpelle l'État. Il lui appartient de bannir sans délai tout comportement et toute communication dangereuse susceptible d'attiser des tensions et de mettre en péril la sécurité du président à tous les niveaux.
Voilà pour l'indignation du nouveau FLNKS qui se plaint de la stigmatisation dont ferait l'objet son président Christian Théin. C'est donc le président du FLNKS qui ouvrira samedi les travaux du congrès extraordinaire dans la vallée de Nimba-Yaponeriwa. À l'ordre du jour, la signature de la charte du FLNKS qui a été remise à jour par rapport à celle de 84, un point sur la gouvernance et un point d'étape après le congrès de la conception du 9 août qui avait rejeté Bougival. Le bureau politique du nouveau FLNKS confirme son rejet de Bougival, qui va selon lui à l'encontre des objectifs de pleine souveraineté. Il affirme cependant avoir décidé de poursuivre le dialogue. Et c'est dans cet esprit qu'une délégation a rencontré la mission des facilitateurs, même si le FLNKS ne veut pas s'engager dans la voie fixée par l'État, réaffirme Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC.
Le cadre de la mission qui leur a été confiée, c'est-à-dire faire des ajustements, des modifications, des bonifications, des propositions à partir du projet de Bougival, pour nous, on ne peut pas s'inscrire dedans. Tout simplement pourquoi ? Puisque nos fondamentaux n'y figurent pas et que le projet d'accord de Bougival qui a été rejeté, il n'a pas été rejeté pour rien. Il a été rejeté parce qu'il est complètement déséquilibré. S'engager dans cette voie, pour nous, c'est... la pente serait trop difficile à remonter. C'est pour ça que nous, on veut déjà attacher les choses d'abord. Enfin, c'est les choses, c'est la position qu'on a tenue auprès de la mission. En tout cas, les discussions vont se poursuivre dans le courant de la semaine. On fera le point au niveau du congrès du FLNKS. L'ordre du jour du congrès, c'est l'analyse de la situation politique sur les discussions et comment le front se projette pour la suite.
Et lors de ce congrès extraordinaire, le nouveau FLNKS doit donc analyser la situation et décider de son attitude pour savoir notamment comment il poursuit le dialogue, sur quelle méthode et sur quelle base.
Le 9 janvier prochain, la maison de la Nouvelle-Calédonie fermera définitivement ses portes et 6 mois plus tard, la structure juridique sera dissoute. La décision a été actée par le conseil d'administration de la MNC en novembre dernier. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, avait regretté vendredi dernier dans le magazine Transparence que l'information ait fuité avant même que les procédures soient mises en place et que le personnel ait été informé. C'est aujourd'hui chose faite et Alcide Ponga a donné des détails sur cette fermeture. C'est une page qui se tourne, Jean-François Bodin.
Créée en 1989 au lendemain de la signature des accords de Matignon, la maison de la Nouvelle-Calédonie a connu plusieurs évolutions, mais elle a assuré au fil du temps ses deux principales missions, l'accueil des étudiants calédoniens qui viennent faire leurs études en métropole et l'accompagnement des malades évasanés. Elle a aussi permis d'encourager le rayonnement culturel du territoire et d'apporter un soutien logistique aux élus et agents publics pour leur séjour en métropole. Le fonctionnement de la maison de la Nouvelle-Calédonie était assuré par le gouvernement, le Congrès et les 3 provinces pour un besoin de financement qui s'est élevé jusqu'à 500 millions de francs certaines années. Une charge devenue d'autant plus lourde que certaines institutions, la province Nord et la province Sud par exemple, ont mis en place leur propre structure d'accueil de leurs étudiants. Quant à la province des Îles, elle ne pouvait plus assumer sa participation financière depuis plusieurs années. En 2025, le gouvernement a dû débloquer 300 millions pour permettre aux services de la Maison de la Nouvelle-Calédonie de fonctionner. Ce n'était plus possible et la fermeture de la MNC était devenue en quelque sorte inévitable. Ce n'est pas une décision politique, a insisté Alcide Ponga, c'est la simple gestion. On doit prendre des décisions cohérentes par rapport à la situation actuelle, a-t-il expliqué.
Depuis quelques années, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se retrouve seul à financer cette structure. Et compte tenu de la situation financière globale de la collectivité, il était clair à un moment donné qu'il fallait faire un choix drastique. Mais il y a aussi la question juridique liée à la structure. C'est une association de loi 1901 et la CTC avait déjà fait des préconisations pour dire que les collectivités de la Nouvelle-Calédonie n'avaient plus le droit de donner des subventions de l'ordre de 300 millions à 400 millions, voire même 450 millions, à une seule association sans appel d'offres, etc., etc.
Il aurait fallu alors transformer la structure juridique d'association loi 1901 à celle d'un GIP, un groupement d'intérêt public, qui aurait permis de sécuriser son financement, mais il n'a jamais été mis en place. Aujourd'hui, la fermeture est donc actée. Un liquidateur a été nommé pour traiter tous les aspects liés à une fermeture de ce type, selon un calendrier qui va s'étaler sur 6 mois. Il devra aussi accompagner les 12 salariés de la structure qui vont perdre leur emploi. Un point très important pour Alcide Ponga.
Il y a une douzaine de salariés qu'on devra traiter avec humanité parce que ce sont aussi des salariés qui ont rendu service à la Maison de la Nouvelle-Calédonie et aux Calédoniens qui sont passés par la MNC pendant des années et des années. Il va y avoir des accompagnements, déjà dans les ruptures de contrats. J'ose espérer que les équipes qui seront en charge, parce qu'on a nommé un liquidateur de la structure, donc il aura le mandat de faire les choses bien, non seulement en respectant la réglementation du travail, mais en faisant peut-être un peu plus pour accompagner les salariés. Il y a aussi, j'en ai entendu parler pendant le conseil d'administration, des velléités de certaines personnes pour pouvoir revenir ici, et on verra dans cette enveloppe globale de fermeture comment est-ce qu'on peut aussi accompagner celles et ceux qui veulent revenir.
Il fallait aussi trouver une solution pour les MADAD évasanés en métropole. 187 d'entre eux sont passés par la Maison de la Nouvelle-Calédonie en 2024. La CAFAT a signé une convention avec Casodom, un organisme privé qui va assurer ce service à des tarifs moins élevés que ceux qui étaient en vigueur jusqu'à présent. Nous avons demandé à Alcide Ponga si la fermeture de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris marquait la fin de la présence de la Calédonie à Paris.
On travaille d'abord à arrêter cette structure pour les raisons que je vous ai expliquées auparavant, mais il y a en même temps une réflexion secondaire, mais qui est déjà en cours, pour l'ouverture d'une annexe du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Et je pense que si on arrive à fermer la structure de la Maison de la Nouvelle-Calédonie en juillet, je pense que derrière, les 6 prochains mois, sera le temps du travail, que ce soit technique, financier, mais également organisationnel, pour mettre en place une nouvelle structure qui sera la nouvelle maison de la Nouvelle-Calédonie, quoi, là-bas, mais ça sera une structure rattachée directement au service et à l'administration de la Nouvelle-Calédonie.
Cette nouvelle structure plus resserrée, dont le coût estimé est 2 à 3 fois moins important que celui de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, devrait permettre au service du gouvernement d'assurer une présence plus étroite avec les ministères, mais aussi avec les instances européennes, pour trouver notamment de nouveaux financements pour la Nouvelle-Calédonie.
Dans l'actualité ce soir également, la lutte continue pour tenter d'éteindre l'incendie sur l'île des Pins. Le dernier bilan provisoire fait état d'un peu plus de 611 hectares de végétation brûlée autour de la tribu de Kéré, Léana Colombo.
Le dispositif hors sec feu de forêt de niveau 2 a été déclenché hier après-midi et devrait être actif jusqu'à la fin de la semaine selon l'évolution du sinistre. Sont encore sur place 2 hélicoptères bombardiers d'eau, 30 effectifs au sol, dont 18 sapeurs-pompiers de la sécurité civile, 4 de l'aviation civile de la province sud et des agents communaux. Les précisions du capitaine Alexandre Rossignol, officier de permanence de la DSCGR.
Le feu depuis ce matin n'a pas beaucoup évolué, on est à 604 hectares. L'événement favorable, on a quand même la pluie qui a apporté de l'humidité et qui a ralenti un peu la progression du feu sans l'éteindre malheureusement. C'est pas la plus soutenue comme on a pu avoir sur Nouméa malheureusement, on aurait bien voulu. C'est plutôt de la pluie passagère entre 5 et 10 mm qui passe, mais qui est pas assez importante pour pouvoir stopper la propagation du feu malheureusement. Et le vent qui a baissé. À l'origine du feu, il y avait pas mal de foyers encore actifs qui ont été fixés, donc ils n'évoluent plus. Par contre, on a un front de flammes qui se dirige vers l'aérodrome de l'île des Pins et tous les moyens actuellement, les hélicoptères bombardiers d'eau et les équipes au sol sont à pied d'œuvre sur ce flanc-là pour éviter l'évolution du sinistre sur l'aérodrome.
Pour le moment, aucune habitation ni infrastructure n'est menacée. Les pompiers qui font également face à des difficultés techniques sur place, comme le manque de kérosène, obligeant les équipes à effectuer des allers-retours fréquents entre la Grande Terre et l'île des Pins.
Radio Rythme Bleu, opinion.
La réponse à notre question d'hier, 86% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent la nouvelle formule du service national volontaire annoncée par le président de la République. Ils sont 14% à dire qu'ils ne l'approuvent pas. Voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à une labellisation des médias comme l'a proposé Emmanuel Macron ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Il est pratiquement 18h sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie. On vous emmène dans un instant au Monde Hors Sud.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu ? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annoncelegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Info Soir, Lionel Sabot.
Un nouveau médecin pour le Mont d'Or Sud, la province sud, a décidé d'installer un docteur qui officie depuis le début de la semaine dans deux espaces santé de cette partie de la commune, Michael Juneski.
Le docteur Jean-François Evin, qui a pris ses fonctions pour travailler sur les structures de santé de la Corniche, au Vallon d'Or et de Plume. C'était attendu par la population et c'est un maillage entre le service public et les médecins privés qui s'est fait en bonne harmonie. Un avantage pour les professionnels de santé qui travaillent dans cette partie de la commune, à commencer par le docteur Jean-François Evin.
Docteur Jean-François Evin, la province a mis deux dispensaires, puisque c'est les antennes satellites de Boulary. Je fais la moitié de la semaine, début de semaine ici à Corniche, et l'autre moitié à Plume. Si la province a pris cette décision, c'est qu'il y avait un réel besoin, et c'est probable, puisque nous allons offrir un service en continu.
Je suis le docteur Dupré, donc je suis depuis 18 ans à Plume, en activité libérale. Je pense que c'est une saine coopération entre le public et le privé. Moi, je pense ça comme une coopération et même une émulation. C'était d'ailleurs ce qui préexistait, parce que quand je suis arrivé, il y avait encore un médecin de la province qui officiait dans les locaux de la mairie annexe. Ben là, de toute façon, ça répondait à un besoin fondamental. La population médicale a été divisée par deux, et la population sur le sud du Mont d'Or n'a pas été divisée par deux. Donc on était clairement en voie de sous-médicalisation.
Une offre qui vient compléter celle des médecins libéraux, donc, alors que la population du Mont d'Or Sud a connu un grave manque d'accès aux soins, particulièrement depuis les émeutes de 2024 et le départ de plusieurs docteurs. Sonia Baquès, la présidente de la province sud, s'est rendue sur place aujourd'hui dans ces deux structures de santé du Mont d'Or Sud.
On a voulu apporter une offre de soins stable aux habitants du Mont d'Or Sud, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mouvements. On a des médecins qui, pour des raisons personnelles, font pas forcément toute la journée, font pas forcément toute l'année, partent parfois de longues périodes. Là, la province, avec ce médecin qui va être à moitié sur la Corniche, à moitié sur Plume, offre une offre médicale stable. Aujourd'hui, les habitants du Mont d'Or Sud savent qu'ils peuvent trouver deux jours et demi un médecin à la Corniche, deux jours et demi ici un médecin à Plume. Les pharmaciens aussi sont rassurés parce que quand il n'y a pas d'offre médicale, c'est difficile pour eux de travailler. Donc je pense que ça va dans le bon sens.
L'objectif est d'assurer la continuité de l'offre de soins sur cette partie de la commune du Mont d'Or qui a beaucoup souffert en 2024. C'est une bonne nouvelle selon Rousmaïni San Mohamad, deuxième adjointe à la mairie du Mont d'Or, en charge notamment de l'action sociale, du handicap et des seniors.
Ok, oui, beaucoup d'importance parce que certains sont quand même attachés. Depuis des années, ils sont là. Et puis, nous avons aussi quand même des structures telles qu'un EHPAD, nous avons aussi des familles d'accueil, nous avons aussi un foyer de la Séviane qui nécessite des soins pour leurs patients. Certes, le dispositif de la province sud de pouvoir installer des médecins, notamment de façon continue, rassurera déjà la population. Ça nous rassure et donc les médecins, les professionnels de santé que nous avons rencontrés sont satisfaits, espèrent une pérennisation de la part de la province, même comme si la province le dit, ce n'est pas de sa compétence, mais il est essentiel effectivement de se préoccuper de nos administrés, de leurs besoins primaires.
La volonté de la province sud est aussi de soutenir les professionnels de santé qui sont encore présents au Mont d'Or Sud en complétant l'offre de soins et en proposant ce service supplémentaire de consultation de médecine générale. Des professionnels de santé tels que des kinésithérapeutes, des dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens et des infirmiers dont l'activité est essentielle au maintien d'un service de proximité pour les habitants.
En grande difficulté depuis 2024, l'ATIR, l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale, se relance, Léana.
Lors des émeutes de mai, leur plus grand site d'accueil situé à Dumbéa-sur-Mer, juste en face du Médipôle, avait été saccagé. Le centre de Caméré avait été incendié et celui de Thio fermé. Toutefois, même au plus mal, la tire n'a jamais cessé de fonctionner. Et aujourd'hui, l'association voit le ciel s'éclaircir un peu avec la remise en état de son espace à Dumbéa. Nicolas Darceau est le président de la tire.
Assez rapidement après la crise, on a lancé des dossiers auprès des assurances pour d'abord pouvoir réparer, nous aider à reprendre en charge toutes les réparations nécessaires. Donc ça, ce processus, il est en cours de finalisation aujourd'hui. Les assurances ont fonctionné et puis on a pu, surtout sur notre site de Dumbéa-sur-Mer, réparer, ou tout est en cours de réparation en tous les cas. Les peintures sont faites en grande partie, les vitres cassées sont en cours de remplacement. Et puis, sur ce qui est de l'équipement médical, il avait déjà été réparé. On n'avait pas attendu que les assurances fonctionnent pour ça, parce que c'était vital pour nos patients.
Le site de Dumbéa-sur-Mer peut accueillir jusqu'à 200 patients, soit presque un quart des dialysés pris en charge par l'association, qui est de 700 au total sur le territoire. En plus de la reconstruction de ses locaux, la TIR va prochainement voir l'arrivée de deux nouveaux médecins. L'association avait perdu la moitié de son effectif médical pendant les émeutes. Sur les 7 médecins, il n'était plus que 3, ce qui n'est désormais plus le cas depuis quelques semaines.
Aujourd'hui, on est mieux sur les effectifs infirmiers, on est mieux sur les effectifs médecins parce qu'on a recruté des médecins étrangers grâce à l'évolution de la loi territoire. Donc on a aujourd'hui 2 médecins étrangers, donc nous sommes vraiment satisfaits et nous en attendons un 3e pour compléter l'équipe qui devrait arriver au mois de janvier. Donc voilà, on est à nouveau dans des dispositions où on va pouvoir tourner la page, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à il y a peu, mais là depuis quelques semaines où on retrouve nos effectifs, on va pouvoir regarder un peu mieux l'avenir et repartir sur les projets.
Nicolas Darceau, président de la TIR. La TIR qui propose également aux patients insuffisants rénaux suivis qui ne pourraient pas se déplacer ou qui sont dans des déserts médicaux des téléconsultations.
Et en bref, séance publique de l'Assemblée de la province Sud demain. Elle sera dominée par l'examen de plusieurs textes budgétaires. Les élus examineront en effet le budget primitif 2026 de la collectivité axé sur la relance et la reconstruction. Ils devront aussi se pencher sur le partenariat avec BPI France. Pour le dispositif Sud Relance, les élus devront également adopter la révision du plan d'urbanisme directeur des communes de Dumbéa, La Foy et Boulou-Paris. Cette séance se déroulera à partir de 8h dans la salle du conseil municipal de Nouméa. Et puis, demain soir à 18h, c'est le conseil municipal de Nouméa qui se réunira avec 2 points à l'ordre du jour, la décision modificative numéro 2 du budget primitif de la commune et une convention de financement dans le cadre du dispositif de solidarité républicaine pour l'année 2026. Direction Koumac à présent avec un débrayage ce matin entre 10h30 et 11h30 devant le collège de la commune. Enseignants, parents d'élèves, mais aussi quelques élèves se sont retrouvés devant l'entrée de l'établissement à la suite de l'agression particulièrement violente d'une enseignante. C'était la semaine dernière. Fabienne Cadoca, secrétaire générale du syndicat de la fonction publique de l'UTCFE-CGC.
L'élève en question, pendant la même heure de cours, le chef d'établissement était venu le sortir de la classe parce qu'il avait dégradé un endroit de l'établissement, et le chef d'établissement était venu le sortir pour qu'il répare ses dégradations, et après il l'avait ramené en cours pendant l'heure de cours. A priori, l'enseignante l'a réprimandé parce qu'il se tenait mal, et il s'est défoulé sur elle et lui a mis un coup de poing en plein visage. Ce matin, il y a eu un débrayage de 55 minutes, la quasi-totalité du personnel qui s'est mobilisé, il y avait même des parents d'élèves et certains élèves qui étaient aussi devant l'établissement. Dans le cas d'une agression, il y a l'obligation de tenir le conseil de discipline, ça c'est bien dans le statut des époques. En général, pour une agression d'une telle violence, souvent l'élève est déplacé. La violence ne peut pas la tolérer comme ça.
L'enseignante blessée a été évidemment très choquée par cette agression. Elle ne devrait pas reprendre les cours avant à la fin de l'année scolaire. Le climat demeure tendu au collège de Connay. Depuis la semaine dernière, les parents d'élèves de l'UGPE organisent un sit-in devant l'établissement et demandent le départ de sa directrice. À l'origine de ces tensions, une élève victime de harcèlement de la part de plusieurs de ses camarades et des parents qui ont accusé la chef d'établissement d'avoir mal encadré le dossier. Léana Colombo.
Et dans une tentative d'apaisement, le vice-recteur a organisé hier une réunion à Connay avec les parents d'élèves et l'équipe pédagogique du collège sans aucune avancée notable. À l'issue de cette réunion, le vice-recteur Didier Vindatich a réitéré son soutien à la directrice du collège. Selon lui, il est hors de question que la chef d'établissement parte. Il souhaite le retrait des banderoles au plus vite pour éviter de perturber les élèves à une semaine du brevet des collèges.
Les discussions d'hier ont montré que finalement nos points de vue n'étaient pas totalement divergents, notamment sur des sujets de fond. La chef d'établissement a reconnu peut-être certaines maladresses dans sa communication, donc je pense qu'elle a fait un pas vers les familles qui sont en opposition avec elle. C'est le message qu'on a essayé de porter hier pour que ce problème se résolve progressivement. Naturellement, je souhaite l'apaisement pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est à quelques jours des épreuves du DNB, mais à un peu plus long terme, il faut d'ores et déjà se projeter sur la rentrée pour procéder aux ajustements dont nous avons besoin pour que l'année 2026 reparte sur de meilleures bases.
Didier Vindatich, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Et si les tensions demeurent, le vice-rectorat devrait demander un renfort de la sécurité à l'entrée du collège au moment des examens. Dans un communiqué, l'UGPE dénonce, je cite, une réunion qui s'est révélée être un simple exercice de communication. Le collectif annonce la poursuite de mobilisation et demande toujours le départ de la principale et des excuses publiques. Dans un même temps, l'UGPE exprime ses regrets quant aux perturbations engendrées par ce sit-in.
Actualité sociale, les salariés de la NMC étaient rassemblés ce matin devant le Haut Commissariat, rassemblement à l'appel d'une intersyndicale, rassemblement des salariés qui, après de 18 mois de veille froide de l'usine du Nord, sont très inquiets pour l'avenir. Bertin Boeré, délégué syndical STKE de la MNC.
La NMC, elle est confrontée à un problème de trésorerie. L'autre point, c'est le traitement inéquitable que vit la NMC, parce que on sait que PRNC a eu des aides de l'État, comme la SLN, et non la NMC.
Vous parlez de problèmes de trésorerie, concrètement, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence?
Nous, on aurait besoin de cette manne financière, qui est importante, d'environ 4 milliards, parce que si on n'a pas ça d'ici le 15 et le 20 décembre, la NMC coule, entraînant dans son sillage les sous-traitants, les tâcherons et Cotransmine. Les salariés sont très inquiets, comme les tâcherons et les sous-traitants.
Environ 400 personnes se sont rassemblées jusqu'en début d'après-midi, donc devant le Haut Commissariat. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Le PDG de l'IOM est actuellement en visite sur le territoire. Yann Odona suit la situation économique des territoires ultramarins et particulièrement la Nouvelle-Calédonie. Quel regard porte-t-il sur la situation économique et ses perspectives à court et moyen terme? Quel rôle joue l'IOM dans l'accompagnement des acteurs économiques? Yves Odona sera demain matin notre invité à 7h30. Et puis, créer 10 000 emplois dans l'agroalimentaire, c'est l'ambition de la FIN qui a entamé une réflexion avec les acteurs concernés et nous en parlerons demain dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à midi. Jean-François Bodin recevra la vice-présidente de la FIN, qui est Marie-Amélie Amolia, ainsi que Maxime Costil et Sébastien Muller, respectivement directeur général et vice-président de l'ANIA, l'Agence Nationale des Industries Alimentaires, actuellement sur le territoire.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Nous savions pouvoir compter sur votre générosité. Elle ne se dément pas chaque jour. Nous accueillons des auditeurs qui viennent porter les cadeaux à la radio pour participer à cette opération au cœur de Noël. Et ils partagent tous la même attention pour que Noël soit une fête pour tous, y compris pour les enfants des familles en souffrance. C'est le cas de Bénédicte, venue nous voir à la mi-journée.
C'est important pour moi que les enfants passent un joyeux Noël.
Pour cette occasion, qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Alors, beaucoup de peluches, des grosses, des petites peluches, des énormes peluches. C'est génial pour se blottir quand on est enfant. Et puis des jouets, il y a des puzzles, il y a des petits accessoires pour faire de la pâte à modeler. Voilà. Je souhaite que toute la Calédonie passe de joyeuses fêtes de fin d'année.
Et tous vos cadeaux seront distribués aux familles en difficulté, suivies par nos partenaires, la Société Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique et la Croix-Rouge. Vous aussi, venez participer à cet élan de générosité. Nous accueillons tous les jours à RRB de 7h à 19h. 18h13, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, quelques mots de sport et la météo. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Le sport sur le territoire avec du squash, les huitièmes de finale de l'Open International BNP Paribas en hommage à Enzo Corigliano. Se sont joués hier soir, les favoris internationaux et calédoniens ont répondu présent, place désormais au quart de finale. Dès ce soir, écoutez Yann Bouvel, président du Dimbéa Squash Club.
Les quarts de finale donc commencent à partir de ce soir pour les premiers Calédoniens. Les internationaux continueront demain. On commence à percevoir le tableau final qui se dessine. Donc les trois internationaux qu'on avait ciblés au départ sont au rendez-vous. Le Tahitien, lui, a été éliminé par Freddy Jameson, l'anglais, mais c'était pas une surprise. On aura Nicolas Massenet et Laurent Guépy qui vont s'affronter. Donc il y a encore plusieurs Calédoniens qui vont s'affronter, mais c'est vrai que le tableau se resserre.
Et les quarts de finale du tableau principal se joueront ce soir et demain, toujours à la salle Enzo Corigliano à Dimbéa. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Pierre.
Vigilance jaune, forte pluie, orage. Donc autant dire que les couleurs ne seront pas forcément claires. Sur les Loyautés, pour un risque d'averse orageuse soutenue en fin de journée de mercredi et en première partie de nuit de mercredi à jeudi. Cette nuit aux Loyautés, les averses seront encore intenses en début de nuit avec parfois un coup de tonnerre avant de s'évacuer vers le nord. Sur la façade ouest, le ciel restera très chargé avec quelques pluies résiduelles qui s'accrocheront encore en soirée sur les versants ouest du relief. Sur l'est, au contraire, le temps se dégagera rapidement. Le vent se renforcera nettement aux Loyautés, avec un flux de sud à sud-sud-est soufflant entre 20 et 25 nœuds et des rafales de 30 à 35 nœuds sous les averses. Sur la pointe nord-ouest, le vent de sud-est restera soutenu autour de 20 nœuds, rafales à 30 nœuds. Il sera plus faible sur la côte est autour de 10 nœuds, avec quelques accélérations dans les vallées. Ailleurs, il soufflera entre 15 et 20 nœuds. Les températures nocturnes resteront élevées, entre 22 et 24 degrés, localement 20 degrés dans l'intérieur des terres. Demain matin, le pays connaîtra une nette amélioration avec le retour d'un temps bien ensoleillé. Seules les Loyautés conserveront un ciel plus nuageux avec quelques ondées résiduelles en début de journée. L'alizé de sud-est s'installera partout, soufflant autour de 15 nœuds sur l'est, entre 15 et 20 nœuds ailleurs et atteignant 20 nœuds, rafale 30 nœuds sur le nord-ouest et la pointe nord. Et côté marée, elle se rabasse vers minuit 46, remontera pour atteindre la pleine mer autour de 7h24 avant de descendre de nouveau en début d'après-midi vers 13h24.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.